nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, le protocole de Londres, il faut bien l'avouer, il y a encore quelques semaines, on ne savait pas grand-chose de lui. Pas grand-chose de lui jusqu'à la fin du mois de septembre 2007, où depuis, homme politique, scientifique, écrivain, le tout relayé par les médias, ne parle plus que de ça. Alors de quoi s'agit-il? Comme chacun le sait, les inventions sont protégées par des brevets. Et jusqu'à présent, ils doivent être publiés dans les 23 langues des 32 pays membres de l'Office européen des brevets, OEB, qui comprend donc, vous l'aurez compris, plus de pays que dans l'Union européenne. Mais depuis 2000, ce nouvel accord, dit protocole de Londres, supprimerait cette obligation de traduction. Il n'y aurait ainsi plus que trois langues officielles, l'anglais, le français et l'allemand, et les textes seraient alors déposés dans une seule d'entre elles. Alors pour les partisans du texte, la mesure a essentiellement un objectif économique, à savoir favoriser la compétitivité des entreprises en leur faisant économiser les coûts de traduction des brevets d'invention qu'elles déposent. Et pour ceux qui sont contre, l'anglais deviendrait officiellement en Europe la seule langue reconnue pour la propriété intellectuelle, conformément aux vœux de l'Office américain des brevets et de multinationales comme Microsoft. On compte parmi eux le linguiste Claude Agege, ainsi qu'Éric Orsenna et Alain Decaux de l'Académie française. Alors vous l'aurez compris, si on en parle autant, c'est parce que les nouvelles dispositions divisent réellement les partis. Et il en est de même ici à l'Institut de France, puisque à l'Académie française, défenseur de notre langue, se montre opposé à cette nouvelle disposition et à l'inverse, l'Académie des sciences s'y montre favorable. Alors sur Canal Académie, nous vous proposons d'écouter les arguments des deux partis. Les émissions sont en médiathèque et dans ce focus, nous recevons ici un défenseur du protocole, monsieur Alain Pompidou. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Académie. Alors, vous êtes l'une des personnes indiquées pour représenter les défenseurs de cet accord, puisque vous avez été jusqu'en juin 2007 président de l'Office européen des brevets. J'espère que vous pourrez nous en dire un peu plus sur cet office européen.
Okay.
Ce qui signifie aussi que vous avez participé à la rédaction de cet accord.
Absolument pas. Cet accord, en fait, d'abord, merci de me convier pour cette discussion aussi ouverte que possible sur l'accord de Londres, en sachant qu'effectivement, je ne voudrais pas m'immiscer dans des débats interacadémiques et que je suis ici essentiellement en tant qu'ancien président de l'Office européen des brevets, que je n'ai pas participé à la rédaction de cet accord dans la mesure où il est en discussion encore depuis 1999, et que en 1999, lors de la conférence qui a eu lieu à Paris, qui était une conférence intergouvernementale qui a eu lieu à Paris, il a été envisagé de maintenir d'abord les trois langues officielles, qui sont les trois langues de l'Office européen des brevets prévues par la Convention européenne des brevets, et ceci depuis 30 ans, qui sont le français, l'allemand et l'anglais. D'une part, et deuxièmement, dans un but essentiellement opérationnel, indépendamment des aspects purement économiques, de s'engager vers une réduction des coûts des traductions, tout en maintenant la place du français, dans la mesure où, effectivement, seulement les revendications seront traduits en français et non plus la totalité de la demande de brevet ou du brevet délivré. C'est ça le grand enjeu. Alors après cette conférence intergouvernementale de 99, en 2000, il y a eu après la conférence de Paris, une conférence intergouvernementale à Londres dans laquelle les partis se sont mis d'accord pour le protocole de Londres, qui est un protocole facultatif, optionnel, et en indiquant bien que pour que ce protocole entre en vigueur, en maintenant bien les trois langues officielles de l'Organisation européenne des brevets, que pour que ceci entre en vigueur, il fallait que 8 pays aient ratifié, dont la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne.
Donc si l'un des trois pays, en l'occurrence, donc comme vous le dites, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ne ratifiait pas, pour le coup, ce protocole ne peut pas entrer en vigueur.
Ne verrait pas le jour. Aujourd'hui, l'état de la question est qu'au 1er juin 2007, 11 États avaient approuvé et ratifié donc l'accord de Londres, y compris la Grande-Bretagne et l'Allemagne.
Ce qui se comprend aisément pour la Grande-Bretagne.
Oui, mais pour l'Allemagne, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que les Allemands ont ratifié l'accord de Londres? Pour protéger leur langue et servir leur économie. C'est le même objectif, véritablement, pour la France. Et donc, pour que cet accord entre en vigueur, maintenant, indépendamment des 11 États qui ont ratifié, il faut que cet accord soit ratifié par la France. Alors là, il y a eu plusieurs éléments. Le premier élément, c'est l'avis qui a été rendu par le Conseil d'État en 2000, indiquant que le français était la langue de la République et donc qu'il n'y avait pas de contre-indication à ratification par la France de l'accord de Londres. Et sur les mêmes arguments, le Conseil constitutionnel, qui a été saisi en juillet 2006, a répondu en septembre 2006 en disant qu'il n'y avait pas d'anticonstitutionnalité à la ratification de l'accord de Londres. Tout ça venait après une période de travail intensif qui a commencé en 2001, juste après la conférence de Paris et après la conférence de Londres, avec un rapport du sénateur Grignon sur la stratégie du brevet d'invention et qui recommandait la signature de l'accord de Londres par la France. Et ensuite, le gouvernement de l'époque a saisi une commission parlementaire de l'Assemblée nationale, présidée par M. Garrigue et M. Le Quillet, qui ont recommandé ratification de l'accord de Londres après de longues auditions et entendant tous les partis. Donc l'Assemblée de cette commission de l'Assemblée nationale, qui dépendait essentiellement d'ailleurs des affaires étrangères, a recommandé la ratification de l'accord de Londres. Puis une commission du Sénat, présidée essentiellement par le sénateur Hennel, a préconisé elle-même la ratification de l'accord de Londres, accompagnée en plus d'une relance du brevet communautaire. Et là, peut-être pourrait-on essayer dans un premier temps de resituer les choses dans un contexte plus vaste, qui est celui de l'évolution du droit des brevets en Europe.
Oui, puisque comme vous étiez le président de l'Office européen des brevets, vous êtes à même de pouvoir nous en dire plus. Mais alors, très rapidement, avant que je puisse vous poser les questions que se posent ceux qui sont contre ce brevet.
Bien sûr. En deux mots, nous sommes aujourd'hui à un tournant en matière de politique européenne des brevets, dans la mesure où deux instances s'affrontent, d'une part l'Organisation européenne des brevets, d'autre part la Commission européenne, et qu'il faut bien faire la différence entre le brevet européen tel qu'il est délivré par l'Office européen des brevets, d'une part, et d'autre part le futur brevet communautaire. Le brevet européen, dès l'instant qu'il est délivré, donne lieu à un faisceau de brevets qui doivent être validés dans les différents États membres en fonction des intérêts du déposant, bien évidemment, de l'Organisation européenne des brevets, comme vous le rappeliez tout à l'heure, 32 États membres. Et le brevet communautaire, lui, apporte un acquis communautaire supplémentaire dans la mesure où le jour où ce brevet entrera en vigueur, ce brevet communautaire qui n'est pas encore en place à l'heure actuelle, il y aura validation d'emblée et automatique dans les 27 États membres de l'Union européenne. C'est donc un acquis communautaire supplémentaire. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent le brevet communautaire n'a pas vu le jour? Il est en discussion depuis 20 ans et on est en passe d'aboutir. Et la difficulté était liée à la valeur juridique des traductions, compte tenu du fait que les 27 pays de l'Union européenne ont 23 langues différentes et que la valeur juridique des traductions est un élément important en matière de litige. Alors, il me semble qu'il faut arriver à une réduction du nombre de langues, y compris pour le brevet communautaire, que le fait de maintenir la place du français, de l'anglais et de l'allemand, comme c'est prévu dans la Convention européenne des brevets, pour l'appliquer au brevet communautaire, me paraît de nature à avancer sur la mise en place de ce brevet communautaire, qui est réclamé par les petites et moyennes entreprises, qui est réclamé par les universitaires, qui est réclamé par l'industrie pharmaceutique, par exemple. Et à ce moment-là, on aura franchi une étape considérable.
Mais justement, alors vous parlez des industriels, tous ne sont pas favorables à ce protocole. Certains redoutent justement que ça favorise une hégémonie des multinationales américaines ou en tout cas anglophones.
Oui, alors effectivement, c'est un argument qui a été mis en avant par les opposants à l'accord de Londres. C'est qu'effectivement, si l'accord de Londres était adopté, ceci représenterait un effet d'aubaine pour le monde anglophone et notamment pour l'économie de la connaissance venant à la fois des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de tous ceux qui utilisent la langue anglaise. Alors, je crois que c'est le meilleur moyen de s'opposer et de contrebalancer cet effet d'aubaine que de ratifier l'accord de Londres. On va venir peut-être dans des informations un peu plus détaillées tout à l'heure, mais l'accord de Londres fait en sorte que quand, lorsque le brevet est délivré, les revendications sont traduites dans les trois langues de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire qu'un brevet déposé en anglais ou en allemand sera traduit en français, qu'un brevet déposé en français restera en français. Et donc, c'est le meilleur moyen contrebalancer l'effet d'aubaine qui existe déjà avant même ratification de l'accord de Londres pour des brevets venant d'outre-Atlantique. C'est-à-dire que ces brevets venant d'outre-Atlantique, dès l'instant qu'ils seront délivrés par l'Office européen des brevets, les revendications seront traduites en français. Si bien que ça permet de positionner le français et de positionner aussi les francophones dans un domaine extrêmement concurrentiel.
Les brevets qui sont aujourd'hui, à l'heure actuelle, encore 100% traduits en français, tomberaient à 7%. C'est ce qu'évaluent justement ceux qui sont contre justement ce protocole de Londres.
Non, il faut bien distinguer ce qui est le dépôt de brevet et ce qui est la délivrance de brevet. Lorsqu'un inventeur pense que son invention a un effet technique suffisamment bien précisé et que les revendications définissent bien l'objet de la protection, cet inventeur, s'il est français, il va déposer son brevet en France. Ensuite, il a la possibilité de le déposer en Europe. Mais en France, il le dépose en français. S'il décide de passer dans la phase européenne, c'est-à-dire de passer par l'Office européen des brevets, son brevet restera déposé en français, puisque le français est une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets. Donc, ce qui est important dans un premier temps, c'est de permettre à l'inventeur de concevoir, de rédiger, de communiquer en français, puisque dès la phase de dépôt, il y a des interactions régulières entre le déposant, c'est-à-dire l'inventeur et son mandataire, et l'examinateur de l'Office européen des brevets, qui est tenu de parler le français, et donc ces échanges se font en français. Et ça, ce n'est pas remis en cause, c'est l'état actuel. Bien. L'intérêt de l'accord de Londres est que, à partir du moment où le brevet est déposé, ce brevet doit être publié dans la langue de dépôt d'origine au bout de 18 mois. Et c'est là que se fait la veille technologique, la surveillance de la concurrence, parce que c'est au bout de 18 mois qu'il est important de savoir comment se positionne une invention par rapport à la concurrence. Et là, le fait qu'on maintienne bien la place du français à l'Office européen des brevets fait que cette première publication qui est liée à un premier dépôt en français sera en français. Et qu'en matière d'intelligence économique, tout acteur qui ne comprendrait pas le français est exclu de l'évaluation de la concurrence. Ça me paraît donc un premier élément en faveur, si vous voulez, du maintien et de l'ancrage du français à l'Office européen des brevets, que cette phase de première publication à 18 mois qui permet, un, de surveiller la concurrence, deux, ceux qui ne comprendraient pas le français sont exclus. Et donc, c'est aussi un élément protectionniste de pouvoir déposer en français pour les francophones. Et d'ailleurs, indépendamment des pays francophones de l'Europe, les pays d'Afrique francophone ne s'y sont pas trompés puisqu'ils commencent à déposer des brevets et que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, lors de son conseil d'administration en mai dernier, a émis un avis unanimement favorable à la ratification par la France de l'accord de Londres. Donc c'est un point très important, d'autant plus que le conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle est représenté par les ministres de l'industrie, de l'économie et des finances.
Mais alors aujourd'hui, vous ne comprenez absolument pas pourquoi il y a des personnes qui se présentent contre ce protocole, qui sont quand même des grandes pointures de la littérature française.
Alors effectivement, il ne faut pas confondre le fait d'écrire la compétence littéraire d'une part et la compétence technologique d'autre part. Dans le domaine scientifique et technologique, les objectifs ne sont pas rigoureusement les mêmes. Un auteur littéraire va être protégé par le droit d'auteur, un inventeur va être protégé par le droit des brevets, et effectivement, en matière de droit, protection de droit des brevets, l'évaluation et la surveillance de la concurrence est beaucoup plus importante qu'en matière d'élaboration littéraire. À l'heure actuelle, ceux qui s'expriment sont essentiellement des gens qui sont des écrivains, qui sont des défenseurs de leur langue. Je pense que les inventeurs qui s'expriment, eux, que ce soit des industriels ou que ce soit des chercheurs, qui s'expriment, eux, en faveur de la ratification de l'accord de Londres, ils voient l'intérêt pour eux de continuer à concevoir en français, à rédiger leurs inventions en français, à les protéger en français et à communiquer en français, non seulement avec les examinateurs de l'Office européen des brevets, mais également avec ceux qui surveillent la concurrence. Et donc, je pense que là, on est en train d'engager un débat dogmatique qui est mené par des écrivains, des acteurs du monde littéraire, alors que le point de vue des acteurs du monde de la recherche et de l'innovation est totalement différent et indépendamment de la réduction des coûts. Il s'agit véritablement de maintenir pour l'innovation, pour la science, pour la technologie, le français comme langue scientifique, technologique, économique et juridique.
Alors, vrai ou faux, Alain Pompidou, vous allez vous prêter à ce petit jeu. Est-ce qu'à terme, dans les années à venir, dans les 20-30 ans à venir, vrai ou faux, est-ce qu'à terme, le français risque d'être supprimé au profit de l'anglais? C'est ce que redoutent certains.
C'est le vrai débat. C'est le vrai débat. Et je pense que le monde littéraire, qui connaît bien le droit d'auteur, parce qu'effectivement, que ce soit en matière de livres, en matière d'instruments de diffusion électronique, pour ne pas les citer tous, le droit d'auteur est effectivement un point extrêmement important, de façon à protéger ce qui est issu de la réflexion du monde littéraire, même de sa sensibilité. Le point de vue est que, véritablement, l'accord de Londres menacerait la position du français. Bien. Premièrement, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur la Convention européenne des brevets qui ne peut pas être mise en cause puisque c'est un accord intergouvernemental et que l'accord de Londres ne remet pas en cause le principe des trois langues en matière de brevets européens.
Il n'y a pas de possibilité de revenir dessus?
On ne peut pas on peut revenir dessus par une autre conférence intergouvernementale. Mais si l'accord de Londres est ratifié, il n'y a aucune raison de remettre sur le tapis la négociation en matière de trilinguisme, puisqu'on travaille pour le multilinguisme, là, au moins sur trois langues, l'allemand, l'anglais et le français. Bon. Eh bien, il n'est pas possible de revenir ensuite sur cette Convention européenne des brevets, sans passer par 10 années de discussion. On est là sur pratiquement 8 années de discussion sur la ratification de l'accord de Londres. Avant d'arriver à remodeler la Convention européenne des brevets, il faudra 20 ans, et encore, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que la francophonie a son rôle à jouer, parce que les inventeurs francophones se développent de plus en plus, que ce soit d'ailleurs en Asie, dans les pays qui ont gardé des traditions francophones, comme le Vietnam par exemple, ou que ce soit en Afrique, ou que ce soit en Amérique du Nord avec le Canada, les innovateurs sont en train, les chercheurs sont en train de protéger leurs inventions en français. Donc, il n'y a pas de menace. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, le fait que des brevets outre-Atlantique arrivent à l'Office européen des brevets, le maintien des trois langues fait en sorte que quand le brevet est délivré, il doit automatiquement être traduit dans une des trois langues, et notamment en français.
Alors, est-ce que le français sera supprimé à terme?
Vous parlez un politique. J'ai été pendant 10 ans au Parlement européen, donc je vais rien n'est blanc, rien n'est noir. Et s'il y a un débat interacadémique, c'est que on est dans le domaine du gris. Alors, je ne vous dirai pas que c'est faux, ou je vous dirai pas que c'est vrai. Je vous dirai que il y a une attitude qui est une attitude de principe, qui est à la limite du dogmatisme de la part du monde littéraire, et qu'il y a une attitude ouverte, qui est une attitude voulant créer un avantage compétitif grâce au maintien du français, qui est celle des inventeurs, que ce soit les chercheurs des organismes publics, que ce soit les membres de l'Académie des sciences, les membres de l'Académie de technologie, ou que ce soit les chercheurs du monde industriel. Donc, on est sur deux planètes différentes. Et ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, le monde littéraire en fait un dogme, alors que le monde de l'invention, le monde de l'innovation, le monde à potentiel économique fondée sur la technologie et non pas simplement sur de la production littéraire ou artistique. Quand je dis simplement, c'est un monde vaste qui est lui aussi soumis à des contraintes économiques. Je pense que là, il y a deux approches différentes et que toutes ces explications concernant l'accord de Londres et sa ratification par la France doivent converger vers une meilleure compréhension des tenants et des détracteurs de l'accord de Londres, de telle façon qu'il n'y ait pas de doute dans l'esprit du monde, de la culture et du monde littéraire français, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et c'est le but de notre discussion d'aujourd'hui.
Est-ce que là, vous allez pouvoir nous répondre peut-être plus directement? Est-ce que les brevets français sont moins importants en termes de chiffres que les brevets italiens ou espagnols? Puisque quelque chose peut paraître surprenant, c'est que ce soit ces trois langues, anglais, on peut comprendre, allemand et français qui soient sélectionnés, et pour autant il semblerait que les Italiens produisent plus de brevets que nous, français. Alors pourquoi c'est le français qui est choisi comme troisième langue?
Non, le français est sur un pied d'égalité par rapport à l'allemand et à l'anglais. C'est pas une troisième langue, d'abord. C'est une des trois langues qui est sur un pied d'égalité rigoureux par rapport aux deux autres. Deuxièmement, il faut bien distinguer ce qui est le dépôt national et ce qui est le dépôt européen. Alors, effectivement, la France n'a pas à rougir de sa position parce qu'elle est à l'heure actuelle, en matière de dépôts nationaux, elle est quasiment équivalente à l'Italie ou aux Pays-Bas. En matière de dépôts européens, la France est le troisième déposant après l'Allemagne et la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Donc, ils sont troisième, quatrième. On est toujours dans les troisième, quatrième positions selon qu'on prend les statistiques dans un sens ou dans l'autre. Mais ça veut dire que la France n'a pas à rougir en matière de dépôt de brevets, en matière de promotion de l'innovation et de valorisation de ses inventions. La France est bien positionnée au niveau de ses dépôts nationaux. Elle est bien positionnée en matière de ses dépôts européens. Et c'est la raison pour laquelle il est important que, sans remettre en cause la Convention européenne des brevets, les Français soient incités à déposer dans leur langue, soit en premier dépôt national français, là ils sont obligés de déposer bien sûr en français, mais s'ils sont en premier dépôt européen, ils peuvent déposer soit en allemand, soit en anglais, soit en français. Et à l'heure actuelle, un certain nombre d'inventeurs considère pour des raisons pratiques, parce qu'ici, à la fois l'Office européen des brevets et l'Office américain des brevets, qu'il est plus simple de déposer d'emblée en anglais, parce que c'est moins cher. Donc, il faut avoir des mesures. Alors là, on rentre dans les aspects purement de boutique
économique
et d'épicerie, ou pour être plus noble, purement économique. Il faut rendre plus attractif le brevet déposé en français que le brevet français déposé en anglais. Et c'est le but de l'accord de Londres.
Alors, avant de terminer cette émission, Monsieur Pompidou, peut-être le regard, puisque vous étiez président de l'Office européen des brevets, vous étiez donc en relation avec la France, bien sûr, mais également avec d'autres pays de l'Union européenne en l'occurrence. Alors, justement, quel est le regard des Espagnols, des Italiens, sur ce fameux protocole?
Ce qui est important, c'est de bien faire une différence entre l'Italie d'une part et d'autre part la péninsule ibérique. Pourquoi? Parce que la péninsule ibérique, entre l'Espagne et le Portugal, couvre une grande partie du monde, le monde hispanophone pour l'Espagne, le monde lusophone pour le Portugal, et que ces deux pays veulent garder leur capacité d'influence à travers leur langue, tant sur le plan culturel que sur le plan économique d'ailleurs, ce qui fait que ces pays-là sont des ardents défenseurs de leur langue. L'Italie est un ardent défenseur de sa langue, mais l'Italie, si elle dépose un brevet à l'Office européen des brevets, ne peut pas le déposer en italien, elle devra le déposer en français, en anglais ou en allemand. Donc, où elle sert la cause de l'anglais, où elle sert la cause du français. Il y a beaucoup d'Italiens qui parlent le français et qui sont très très à l'aise en français. Donc, pourquoi trois langues et seulement trois langues? Parce que les pères fondateurs, il y a 30 ans, de l'Organisation européenne des brevets et de son bras armé, l'Office européen des brevets, étaient effectivement les Français, les Allemands et le Benelux. Et donc, effectivement, on est... Et la Grande-Bretagne. Donc, finalement, c'est ces trois langues qui font foi et qui ont été la langue des pères fondateurs de l'Organisation européenne des brevets. Où est le véritable effet d'aubaine? Le véritable effet d'aubaine est que l'une des trois langues officielles de l'Organisation européenne des brevets est le français et que le protocole de Londres permet de rendre plus attractif le brevet européen en le rendant moins cher. Il y a des discussions sibyllines pour savoir si c'est 10% de moins, 50% de moins. Les détracteurs de l'accord de Londres vous disent que c'est rien du tout et que c'est 10% de moins. Les tenants de l'industrie vous disent que c'est 50% de moins. La réalité, c'est qu'en fonction du nombre de pages du brevet, en fonction du nombre de pays dans lesquels le brevet va être validé, la moyenne, c'est de l'ordre de moins 35%. C'est pas négligeable parce que ces 35%, ils sont, un, attractifs, deux, ils permettent de réinvestir dans la recherche ou dans d'autres brevets, donc ils servent l'économie. Et deuxièmement, ils donnent accès aux chercheurs français, aux dépôts en français, au lieu de passer par l'anglais. Donc, véritablement, je ne vois que des avantages.
Pour terminer, est-ce qu'il n'y a pas une amertume de ces pays-là, justement, encore plus activée que par ceux qui seraient ici en France, justement, ardents
L'épreuve de vérité, elle sera au moment de la discussion qui est très proche sur l'adoption du brevet communautaire. Si ces pays, pour des raisons pragmatiques, donnent leur accord pour qu'on en reste à trois langues en matière de protection de la propriété industrielle, le brevet communautaire est sur les rails et on a un acquis communautaire considérable. Ce qu'il ne faut pas oublier, et ce que les détracteurs de l'accord de Londres ne signalent jamais, c'est que en cas de litige, c'est-à-dire au bout de quelques années, quand le brevet a été délivré, en cas de litige, c'est la langue de dépôt qui fait foi. D'où l'intérêt pour les Français de déposer en français et non pas de déposer en anglais. Ce que permet l'accord de Londres à un coût bien inférieur à celui qu'il est aujourd'hui. Parce que en cas de litige à venir, c'est le français qui fait foi.
Eh bien, je vous remercie, Monsieur Pompidou, de nous avoir donné ces précisions. Je précise à nos auditeurs que vous êtes également membre du groupe interacadémique ici à l'Institut de France, le groupe interacadémique intitulé « Propriété intellectuelle et artistique dans le domaine de la recherche » qui est donc en relation directe avec les brevets, que vous étiez donc président de l'Office européen des brevets jusqu'en juin 2007. Et puis, pour ceux à qui votre nom aurait mis la puce à l'oreille, vous étiez également le fils du président de la République, Georges Pompidou. Merci beaucoup, Monsieur Pompidou. Et puis peut-être une prochaine fois, après ratification du protocole.
On verra ce que le Sénat décidera et je suis tout à fait prêt à venir vous revoir. Qu'il y ait ratification ou qu'il n'y ait pas ratification pour tirer les conséquences de la position française.
Merci beaucoup, au revoir.